Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous voilà repartis pour une petite vidéo. Et bien évidemment, entre chaque série de vidéos que je fais, des fois j'ai des petites choses qui me reviennent. Et puis bah, forcément, ça vient aussi en interaction avec les autres vidéos que je vous ai fait avant. Donc avant de partir sur ce que je vous avais promis, mais que vous allez avoir, hein, c'est-à-dire tout ce qui touche le RLC, la radio libre céleste. Alors, avant qu'on se connecte à la radio libre céleste, eh bien, je vais vous faire part de quelques petites choses, on va dire, supplémentaires, qui viennent en interaction avec ce que je vous ai raconté avant. Évidemment, c'est fait pour raccrocher un petit peu les morceaux partout, hein, et pour vous démontrer que, toujours un effet fractal, que la science qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise tous les jours, en fait, sont en relation directe avec les principes fondamentaux que je vous ai décrits. Donc souvent, nous ne faisons pas la relation parce qu'on n'est pas au courant de tous ces trucs-là, évidemment. Hein. Donc, je vais vous parler de courant, hein, de tension, de voltage. Hein. Mais avant tout ça, je vais vous montrer un petit truc. Donc, dans une des dernières vidéos, je vous ai parlé, vous savez, de l'Omni-PPS, hein, c'est-à-dire PPS pour vouloir dire potence, puissance et science. Tout ça, pour moi, c'est un baratin biblique, c'est-à-dire un truc, le miroir aux alouettes, quelque part. Parce que quand on parle d'omnipotence, ça fait tout de suite bien, hein, ou d'omnipuissance, ou d'omniscience, ou d'omni quelque chose, hein, d'omniprésence, d'omni, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, ils se sont peut-être plantés, au lieu de dire omni, ils auraient dû dire ovni, hein, un truc comme ça, quoi, parce que tous ces pouvoirs sont véritablement galactiques. Parce que si vous revenez à votre état christique, ben vous êtes un galactique, donc vous êtes un ovni. Et c'est vrai que souvent, pour la majorité d'entre nous qui sommes un peu, on va dire, décalés par rapport à la norme, ben on est des ovnis. Hein. Mais c'est normal, on est des galactiques qui reprenons conscience de leur pouvoir, de leur capacité. Alors il y a une personne qui m'a écrit un petit email en me disant, tu sais Laurent, tu parles toujours du pouvoir du créateur incarné, mais tu ne vas pas vraiment dans le détail. Eh bien, la raison, comme je lui ai indiqué, est très simple. Tant que nous aurons un pied en 3D, avec un mental ego qui est avide de pouvoir, afin d'être dans la compétition, vous attendez pas que je vous fasse le détail de tous les pouvoirs qu'a un créateur incarné. Parce que c'est comme dirait l'autre, c'est comme donner une savonnette toute mouillée à quelqu'un en disant, tu sais, tu feras bien par terre avant d'avancer. Hein, c'est complètement, ça ne va pas. Donc, les pouvoirs, on va dire, d'un créateur incarné, ne peuvent se découvrir qu'au fur et à mesure qu'on est à la fréquence. Parce qu'évidemment, si je vous parlais de tous ces trucs-là avant et que vous n'êtes pas à la fréquence adéquate, vous en ferez une utilisation. On va dire qu'il ne sera pas optimal, vous ne comprendrez peut-être pas forcément tout, mais une chose est claire, vous ferez de la Corse. Donc, concrètement parlant, les pouvoirs que nous pouvons avoir sont en fait des capacités que nous avons, qui nous sont livrées dès notre naissance, véritablement. Et c'est en fait nos limitations, nos résistances, nos programmes aveuglants, nos croyances qui font que tout cela, ça nous paraît lointain, voire même inexistant, voire même paranormal. Mais il n'y a rien de paranormal. Donc, nous allons avancer les choses gentiment, hein, tranquillement. Donc, comme je vous disais dans l'article de l'une des dernières vidéos, qu'on parle de puissance ou de potence, tout dépend comment on regarde les mots. Parce que quand on parle de potentiel, de potentialité, ça a aussi, on va dire, le sens de pouvoir. Donc, parler de l'omnipotence, c'est dire, entre autres, avoir la capacité du pouvoir sur la matière. Et comme je le disais dans cet article, il est évident que quand vous êtes au troisième étage, dans le moteur de l'humain, où c'est le mental ego qui domine, eh bien, il veut dominer, bien sûr, le moteur de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'énergie, la 2D, et tout ce qui touche, bien sûr, à la 1D, c'est-à-dire à la matière. Et donc, quand quelqu'un reste encore en 3D, il ne peut pas véritablement, on va dire, se développer dans le sens du marcheur, du créateur incarné. Parce que tout ce qu'il va s'y être faire va avoir, on va dire, une direction égotique. Donc on ne pourra véritablement parler des capacités du créateur incarné qu'au fur et à mesure qu'on mettra vraiment les pieds en 4D, pour ne pas dire en 5D. C'est-à-dire que des choses qui aujourd'hui paraissent complètement dingues soient quelque chose d'absolument naturel. La télépathie est naturelle. Quand un gamin il arrive, il n'a pas besoin de parler français ou anglais ou quoi que ce soit. Il est télépathe. Et il se dit, putain, j'en vois tout et il s'en sourd comme des pots. Alors il hurle, il couine. Puis il va comprendre à la fin qu'il va falloir qu'il utilise ses cordes vocales pour parler, pour faire des bruits, des sons compréhensibles pour que l'autre il comprenne ce qui se passe. Donc nous sommes nés avec tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un, on va dire, est télépathe et puis le fait savoir un peu, tout de suite, c'est du paranormal, tout de suite, ça y est, c'est ceci, c'est cela. Alors, on fait toute une musique, on a des croyances qui se mettent. Alors, dès que quelqu'un commence à devenir un canal, c'est-à-dire, un canal n'est pas véritablement un télépathe, c'est une partie de la télépathie, mais c'est pas de la télépathie d'une certaine manière. Mais bon, ça s'en rapproche. C'est simplement quelqu'un qui commence à pouvoir réutiliser, on va dire, certaines capacités. Alors, en quoi il est paranormal? En quoi il est exceptionnel? C'est tout simplement, c'est qu'il retrouve le truc. Alors, bien sûr, ça se fait parasiter par le mental ego à fond les manettes. Bien, dès qu'on y met, bien sûr, bien évidemment, une réputation ou quelque chose. Donc, on voit que la qualité d'un canal va dépendre de sa capacité à rester humble. Bon, enfin, bref. Donc, le résultat, vous pouvez comprendre que si vous êtes capable de vous biloquer, c'est-à-dire de pouvoir aller à un autre endroit et faire autre chose en même temps que... Eh ben, tout de suite, vous devenez un animal de cirque. Donc il est normal que jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont pu, on va dire, développer certaines parties de leur capacité innée, eh bien, le font, on va dire, en silence et puis en coulisses, quoi. Parce que sinon, pour eux, ça devient invivable. Donc, parler des pouvoirs du créateur incarné ouvertement et mais coucher ça noir sur blanc avec tous les trucs et les tralala, c'est obligatoirement donner des boutons rouges de bombes nucléaires à des gamins qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner un certain nombre de choses, parce que bon, j'en connais une certaine partie, mais loin de tout, mais comme je ne les ai pas forcément... Enfin, je ne peux vous parler que des choses que j'ai, on va dire, expérimentées. Parce que, autrement, si c'est simplement des trucs qui sont lus, des trucs, des machins, c'est que de la mayonnaise mentale. Donc, pour expliquer quelque chose, on va dire simplement, et qu'on puisse se faire comprendre de tous, en fait, il faut l'avoir vibré, il faut l'avoir vécu. Si vous ne l'avez pas vécu, c'est de la mayonnaise. Et la mayonnaise, bah, on sent que ça ne résonne pas, qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Bien. Donc, je vous ai écrit, enfin je l'ai dit, hein, les trois moteurs, donc dans le THC, je vais reprendre parce que c'est un petit résumé que je vous fais là pour compléter avec ce que je vais vous dire d'autre. Donc, maintenant, je n'utilise plus de verre. Le verre est interdit. Il n'y a plus de crayon vert, parce que j'ai vu que, quoi qu'on fasse, de toute façon, ça ne se voit pas. Bon, alors, donc, si je reparle du THC, on sait que le ciel, de toute façon, ça va toucher quelque part à la science. C'est-à-dire, quand on dit la science, c'est-à-dire la connaissance des lois de l'homme. La connaissance, en fait... de ce que le sans-nom a mis en place et comment il a mis en place. On dit, ouais, j'ai un traitement injuste, cela. C'est quoi la justice? Donc, dans notre monde de 3D, on se retrouve avec des tribunaux, des juges, des avocats, tout le bordel, des prisons. Enfin bref, on a mis tout ça en place parce qu'en fait, on est déconnecté des lois de l'homme. La véritable justice, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple. Parce qu'il n'y a pas de cerveau derrière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Parce que ce sont des lois physiques. C'est injuste, je viens de me faire écraser le pied par le marteau. Ben oui, parce que je suis un con et j'ai lâché le marteau qui m'est tombé sur le pied. Qui allez-vous blâmer? La gravitation? le marteau ou celui qui a lâché le marteau. Donc, la justice du sans-nom est fort simple. Il sera fait selon ta vibration. Il n'est pas dit, il sera fait selon ce que tu penses. Il ne sera pas fait selon ce que tu interprètes. Il sera fait selon ta vibration. Ce qui veut dire que si tu es dans la vibration de l'ignorance, tu vas te ramasser des portes. En fait, on va expérimenter. Et vu le nombre de portes et le nombre de dents qui vous restent, bah vous savez à peu près où vous en êtes. Enfin, à peu près. Donc si vous êtes un petit peu rusé, vous apprenez vite à la première porte, vous dites, attends là, faut que je fasse gaffe. Hein, vous aurez un peu... Enfin, je dirais, vous allez garder vos dents plus longtemps. Hein. Mais si vous ne réagissez pas, vous n'essayez pas de comprendre ce qui s'est passé, suite à, on va dire, le coup de râteau que vous venez de vous prendre, bah, il est évident que vous allez vous prendre d'autres râteaux. Et puis, ça sera d'autant plus fort que, bah, il y aura de moins en moins de dents. Hein. D'accord ? Donc, comprenez que la justice est tout simplement un équilibre. C'est pour ça qu'on représente par une balance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde de dualité. Et que la vie joue en fonction d'une polarité. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Ça s'appelle la justice. Il n'y a personne assis sur un trône qui vous juge. D'accord ? Donc, revenir à l'étude, on va dire, des lois fondamentales, on va dire, de la physique, parce que je vous rappelle que ici, c'est le moteur de Terre-Mère. Or, nous sommes incarnés. Nous sommes incarnés dans la carcasse qu'elle nous refile avec la vie avec. Donc, en étudiant ça, nous allons pouvoir comprendre comment ça marche, puisque le moteur de la Terre est par définition unifié. Parce que s'il n'était pas, on serait tous morts déjà depuis longtemps. Donc, en étudiant ceci, on va pouvoir en dégager la substantifique moelle. Et c'est normalement la recherche fondamentale d'un scientifique, d'un chercheur. Il veut découvrir, excusez-moi, Dieu à travers la matière. Eh bien oui, il va le faire. Simplement, il ne verra pas un vieillard avec une barbe. Il verra des lois exprimées sous une forme physique. Donc le fait d'étudier la physique vous permet en fait de regarder les lois fondamentales du sans-nom qu'il a mis en place pour que la création existe. Bien. Alors, ceci ne peut fonctionner, entre guillemets, que si vous êtes un être en évolution. C'est-à-dire quelqu'un qui va justement... Parce que ici, je vais faire le moteur de l'humain. Qui va justement écouter son esprit, sa particule d'esprit, son étincelle d'esprit, sa petite voix. Parce que s'il n'écoute pas sa petite voix qui est reliée, excusez-moi, au ciel, eh ben, il va faire que des conneries au niveau de la Terre, puisqu'il est déconnecté. Donc la science officielle, avec ses dogmes, est en fait une religion de 3D, comme Dieu, comme on va dire, toutes les religions qui existent sur cette planète. C'est une interprétation des choses en fonction d'une époque, d'un truc et d'un machin, avec des dogmes. Alors maintenant, je ne sais plus dans quelle religion, enfin je crois que c'est l'islam, on ne peut plus servir de la main gauche pour manger la soupe. Parce que la droite, c'est vous êtes du côté droit où tout est ok, et la gauche, c'est l'inverse donc. Alors, vous allez me dire, moi qui suis droitier, manger la soupe, ça ne me dérangera pas, mais les gauchers, ils font comment là ? Donc c'est que des, excusez-moi, que des conneries qui sont élevées comme une règle qu'il faut suivre. C'est ça les religions. Donc ici, la science officielle telle qu'elle est là aujourd'hui est une religion, puisqu'elle est aux mains de gens qui sont en 3D. C'est-à-dire, ils disent, il faut qu'on sache ce qui se passe dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Alors on essaye d'aller pousser vers les deux bouts. C'est normal, on veut savoir. Mais on va en faire quoi ? Alors, comme je disais dans mon article, les scientifiques qui sont là, pratiquement tous les sous de la recherche sont issus de l'État. L'État, c'est une institution. Et cette institution a une identité. Donc forcément, ça va apparaître au budget militaire, d'abord. Parce que quel est le propre d'un organisme qui se différencie des autres? C'est qu'il faut qu'il ait un système immunitaire. Donc la moindre trouvaille qui sera trouvée sera utilisée d'abord pour le système immunitaire. Et c'est pour ça qu'ils y mettent les moyens. Donc évidemment, cette science de la découverte est quelque chose de naturel, on va dire, puisque c'est la recherche, en fait, des lois du sans-nom. Formidable! Mais simplement, ce n'est pas fait en conscience. Et quand je dis en conscience, c'est avec une conscience de 4D, avec une conscience, excusez-moi le terme, spirituelle, d'esprit. Donc quand on étudie la science, mais d'abord en regardant à travers la vibration, qui donc, je vous rappelle que quand on est en 4D, est d'abord le collectif. Et donc c'est le contraire de l'égoïsme. Alors ici, on fait ça, ça veut dire différent. Contraire de l'égoïsme. Donc l'égoïsme, c'est ici. Là, c'est l'égoïsme, tout pour ma poire. Alors, pour ma poire au niveau personnel, mais quand vous êtes au niveau d'un état, c'est au niveau de l'état lui-même. Et quand on regarde, ouais, il va peut-être y avoir une troisième guerre mondiale, un truc, un machin, c'est qu'une bataille d'ego. Moi, je veux pas que tu touches au nucléaire. Parce que si tu veux y toucher, je t'en fous une sur la tronche. C'est quoi ça? C'est de la dictature. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur. Et si l'Iran avait la bombe atomique? C'est la peur. Et pourquoi il y a une peur? Parce qu'on est en 3D dans la survie. Et donc dans la domination. Donc toute la science officielle est basée, est alimentée par les sous d'un État. Et donc, évidemment, ça ne sert qu'à un besoin égoïste. Donc c'est de la science sans conscience. Sans, en fait, on ne devrait pas dire c'est de la science sans conscience. C'est de la science, parce que vous savez, conscience, c'est la science des cons. Hein, d'accord? En fait, con, si on le prend en termes tel qu'il est, ça veut dire avec. Ben, la conscience, c'est avoir la science avec. Ah, mais là, quand on parle de la science officielle, c'est pas avec. Hein. Ben, quand je vais dire, c'est pas avec le spirituel. C'est à leur niveau. J'ai la bombe atomique, ou j'ai une roquette, ou un sous-marin, machin truc, j'ai ça, et on va essayer d'avoir les meilleures technologies du monde. C'est pour ça que je souris, quelquefois. Il y a à apprendre et à laisser, hein, dans ce que je vais dire, on est d'accord. On met en avant un certain monsieur Keshe, qui dit, ouais, mais nous on travaille pour la paix, on veut la paix dans le monde, et je vais vous donner des technologies de ceci, de cela. Oui, mais une technologie Keshe mise dans les mains de glandu 3D, ça va faire quoi d'après vous? Donc, il faut bien comprendre que c'est l'état vibratoire de l'individu et son niveau de conscience qui va faire toute la différence. Parce que une loi du sans-nom, une loi physique créée par le sans-nom, est neutre. On peut l'utiliser en bien comme en moins bien. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, où se situe l'individu dans sa conscience. Donc ici, quand je me moque un petit peu de la science officielle, c'est que je me moque d'une religion 3D. Mais en vérité, la vraie science, c'est bien sûr d'étudier les lois physiques, mais avec un niveau de conscience qui fait que si je découvre quelque chose des lois fondamentales de la physique, et que je sais que ça va tomber dans les mains des politiques qui vont l'utiliser pour faire des bombes ou autre chose, alors je préfère fermer ma gueule. Je préfère ne pas donner cette découverte à des idiots. Voilà. Je vous parle de ça parce que j'ai eu un jour cette réflexion, puisque j'avais découvert un truc. Et je me dis, bon, alors, je fais quoi? Je le fais connaître. à ce moment-là, je vais devenir plus ou moins célèbre, ceci, cela, ou ça sera complètement étouffé par le secret défense militaire. Et puis, bah, j'en tire quelques bénéfices personnels. Hein, je découvre quelque chose, etc., etc. Ou, voilà, il y a ça, tout en me disant, ça va tomber dans les mains de gens qui vont l'utiliser, mais pas forcément positivement pour l'humanité. Alors, je fais quoi, là? Bah, j'ai choisi la solution, je ferme ma gueule et je dirai pas ce que j'ai découvert. Parce que pour l'instant, le niveau de conscience n'est pas assez élevé pour pouvoir l'utiliser correctement. Voyez la différence? Bien, vous allez me dire, j'étais pas pris par les joyeuses parce qu'ils ne finançaient pas mes recherches. Donc j'avais cette liberté puisque j'avais pas de compte à rendre. Ah oui, là, on t'a refilé 100 millions là, pour faire ton accélérateur ceci ou cela et cela. Et puis, bon, on veut des résultats quand même. Ben, comme ils m'ont pas financé, j'ai rien à fournir. Et puis, j'ai aucun compte à rendre. Et donc, comprenez que à terme, toutes les nouvelles âmes, ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'il va y avoir les générations qui vont se suivre, eh bien, il va y avoir des entités de plus en plus évoluées dans le sens qu'ils seront moins plombées que nous. Alors on dit des nouvelles âmes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils en ont un peu moins derrière, donc le fardeau est beaucoup plus facile à remuer. Eh bien, est-ce qu'ils vont dépendre des États et de la finance des États pour pouvoir découvrir les lois de l'un? Non. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils seront déjà dans les lois de l'un. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un individu de 3D, aussi brillant soit-il, s'attaque à ça, il a bien une démarche spirituelle. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette démarche va être utilisée contre lui. Alors, on dit souvent, ouais, Einstein, bah, Einstein, il a eu les boules quand il a vu que toutes ces recherches qu'il avait faites a permis à d'autres de pouvoir fabriquer la bombe nucléaire. Si on lui avait dit, tu sais, là, ce que tu es en train de découvrir, avec laquelle tu as la niaque pour découvrir, et tu te sens vachement bien et joyeux comme un gamin qui découvre les lois de l'univers, ça va tuer des millions de gens. Et que pendant un siècle, pratiquement, ou plus, ça va foutre une terreur totale sur la totalité de l'humanité. Parce que, croyez-moi, du temps de la guerre froide, la bombe nucléaire, ça... Hein ? Est-ce que vous croyez qu'il aurait dit « Ouais, bon, je continue mon petit truc égotique parce que je vais montrer à la communauté scientifique que je suis pas un con et que je peux avancer. » Il aurait peut-être dit « Là, vaut mieux peut-être que je me taise parce que ça sera peut-être mieux pour l'humanité en attendant que ça monte d'un cran au niveau vibratoire. » Donc on voit bien que nombre de scientifiques sont des inconscients. C'est-à-dire des gens qui recherchent les choses pour le plaisir de trouver et de dire « ça y est, j'ai trouvé, je serai reconnu dans la communauté scientifique ». Mais se foutent royalement des conséquences. Alors, est-ce que ce sont des créateurs incarnés en conscience et qui vont prendre la totale responsabilité de leurs pensées, de leurs paroles, de leurs écrits et de ce qui va se passer suite à ce qu'ils vont mettre sur la table? Non. Non. Ils ne pensent qu'à une chose. Leur petit parcours, leur petit CV personnel, et combien ça va ramener à la fin du mois. Yes. Et ils jouent avec votre pognon en plus. C'est-à-dire vos impôts. Hein. Donc, quand quelqu'un se dit scientifique, je comprends qu'il met en avant une démarche géométrique. J'essaye de comprendre ce qui est. Super. Mais alors maintenant, il en fait quoi? Ok. Donc quand on passe au niveau collectif, au niveau 4D, ça veut dire que vous êtes connecté. À votre esprit directeur. Alors, la connexion avec votre esprit directeur, c'est pas direct comme ça. Parce que, comme je vous l'avais dit, il y a la nounou. Hein, il y a le majordome, et ensuite il y a le patron. Vous ne pouvez pas, imaginez, 144 000 incarnations, là. Vous croyez qu'il va répondre à tout le monde individuellement, alors c'est quoi ton problème? Ah bah tu sais, j'ai pissé un peu de côté, j'ai mouillé la moquette. Bon, ça ne va pas gérer ça. Il ne peut pas. Rappelez-vous, ces 144 000 incarnations sont simultanées. Il ne peut pas gérer ça. Donc, il délègue. Et donc, ce majordome dont je parle, c'est votre soi supérieur. Donc, il délègue à votre soi supérieur, c'est-à-dire votre majordome, qui lui, comme dirait l'autre, a du taf. Le problème, c'est que votre soi supérieur peut vous causer à travers là, bien sûr. Mais le problème, c'est que quand c'est éteint, il fait quoi? L'autre, il dit, j'ai le téléphone pour lui dire tout ce qu'il faut faire. Et l'autre, il décroche jamais. Parce qu'il n'a même pas encore découvert l'électricité. Alors, je fais quoi, là? Et c'est en cela qu'a été amenée une aide supplémentaire qu'on appelle la nounou. Donc, la nounou, alors je la mets dans une autre couleur, bon, la nounou, c'est tout simplement votre âme. Donc, c'est la nounou. C'est-à-dire celle qui est issue de terre-mère et qui peut être en contact avec votre soi supérieur. Il dit que tant que le gamin n'est pas capable de décrocher le téléphone pour répondre, ah ben, on va lui donner la béquille, hein, et puis on va essayer de lui faire comprendre que c'est mieux de sourire que de se casser la gueule aux autres. Hein. On va essayer de lui montrer que le bonheur, la voie d'être en harmonie et tout, c'est bien. Mais le gamin, tant qu'il est à la maternelle, avec la couche culotte, ben voilà quoi. Donc, d'une certaine manière, les prochaines générations, puisque bon, c'est déjà le cas là pour les dernières générations, les entités qui viennent s'incarner sont des entités moins ensevelies, on va dire. Le résultat, ben, ils ont cette capacité d'être déjà directement en contact avec leur soi supérieur. Donc, directement, ça devrait faciliter les choses. Donc évidemment, Einstein l'avait dit, il avait dit, de toute façon, la science ne progresse qu'en fonction du renouvellement des générations. Ça veut dire quoi? Parce que tout ce qu'un scientifique s'est mis dans le crâne pendant sa vie, il ne l'abandonnera jamais parce que ça lui a coûté cher, donc il ne remettra jamais en cause les fondements. Donc il faut attendre qu'il y ait des nouveaux qui remettent en cause pour que ça puisse avancer. Parce que ça ne peut pas avancer. Donc, vous savez, là, au XXe siècle, quand même, les gens vivent plus vieux, donc ça ralentit un peu le phénomène. Hein. Mais c'est vrai que s'il y avait un renouvellement rapide des générations, la science progresserait beaucoup plus vite. Enfin, pas la science elle-même, mais la compréhension des lois divines, des lois du sans-nom, serait accessible. Bien. Donc ici, quand nous sommes en contact avec notre esprit supérieur, automatiquement, eh bien, on va avoir une étude de la matière, de l'infiniment petit, en regardant dans l'infiniment grand, sachant que c'est quasi la même chose, hein, d'accord? C'est la même lorgnette, simplement, il n'y a pas le même bout, il y en a un qui a grandi, puis l'autre qui rétrécit. Mais c'est la même lorgnette, hein, et nous, on est au milieu. Donc, ils vont étudier ça, le rendre dans la matière de telle manière que ça bénéficie au collectif. Donc, un scientifique, on va dire 4D, pour ne pas dire 5D et plus, sera quelqu'un qui travaille pour l'humanité, pour le progrès de l'humanité. On est d'accord, mais c'est ce que racontent aussi ceux qui sont là. On fait des vaccins, c'est pour le progrès de l'humanité. Ça tue tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pour le progrès. Parce qu'on est parti sur une base que Pasteur a donnée et qui s'est révélée en vérité fausse. D'accord? Donc comprenez que on n'est pas dans le même schéma. Donc aujourd'hui, on me dit, ouais, le plombier, là, il commence à nous donner des cours, on se croirait à l'école à faire de la physique et tout ça. Bah, c'est obligatoire si vous voulez avancer. Comment voulez-vous découvrir les lois de l'un dans la matérialité, dans le vécu, dans ce que vous allez vibrationner, si là-dedans, le petit poids, il ne comprend rien de ce qui se passe? Évidemment, toutes ces interprétations sera du folklore New Age. Sera que des extrapolations sur une compréhension, on va dire, limitée. Il est évident que si vous vous présentez devant une tribu dite primitive, avec votre iPhone, qu'ils ne savent même pas que le téléphone, ça existe, parce qu'ils en sont encore à la pierre, ils vont vous dire, ah là, on ne comprend rien. Hein. Alors, y a des trucs tout cons, quoi. Par exemple, le buisson ardent. La Bible, le buisson ardent. c'est qu'un banal puits de lumière. C'est tout. Alors, comment on va représenter ça? Alors, du temps d'Élie, oui, le char de feu. Ouais, ben, on aurait dit la soucoupe, et puis c'était bon. Hein. Je veux dire, on n'a pas les mots. On n'a pas la compréhension pour placer, on va dire, une interprétation correcte. Alors, évidemment, tout est déformé. Donc, on ne peut pas avancer sur le chemin du créateur incarné en conservant des règles de 3D et avec toute la mayonnaise qui a été établie pendant des siècles et des millénaires. Surtout que ceux-là, dans la mayonnaise, ils ont mis ce qu'ils ont voulu pour nous intoxiquer. D'accord ? Donc, à dire, ouais, mais plombier, là, il nous fait des cours de physique et machin, et trucs, etc. Mais c'est normal, parce que si on regarde ça, à ce niveau-là, on retrouve les lois divines. On retrouve les lois que le sans-nom a mis en œuvre. Et si vous comprenez ce qui se passe dans l'infiniment petit et les principes qui sont derrière, ben vous allez le transposer dans votre moteur de l'humain, vous allez comprendre que tout est fluide si vous suivez les mêmes principes. Alors après, bien sûr, vous pouvez mettre ces principes au niveau du ciel, ça fera la même chose. Le problème, c'est que c'est plus difficile d'avoir le ciel sous le microscope. C'est plus difficile si c'est plus grand. Hein ? Puis c'est dans d'autres mondes. Donc la chose qui nous est la plus proche de nous est la matière. Donc l'étude de la matière et de ses comportements est un incontournable dans la progression, on va dire, d'un créateur incarné. Vous ne pouvez pas faire autrement. Croire que vous allez monter au ciel et avoir tous les pouvoirs sans rien comprendre de ce qui se passe, là ça ne va pas le faire. Hein. Bien. Alors, cette chose qu'il faut comprendre, c'est que à une époque, l'humanité en était arrivée à ce stade. Alors, si je reprends un petit peu l'historique des choses, on a eu nos frères lémuriens, c'était nous, hein, mais bon, hein, ils étaient là. Mais en fait, ils étaient entre deux mondes. Ils étaient dans un monde évaporé, et en même temps, ils essayaient de se densifier dans la matière. Donc, ils étaient entre deux mondes. Et les Lémuriens ont surtout expérimenté l'aspect animal. C'est-à-dire qu'ils ont été la civilisation qui a vraiment ressenti ce que c'était d'être un animal, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'ils avaient exploré leur sens à des niveaux de subtilité que là, à côté, nous, à côté, on est morts, quoi. C'est-à-dire ils avaient poussé l'instinct à des niveaux pas possibles. La façon de jouir de ses sens était poussée au maximum. Alors, bien sûr, ils étaient dans le moteur de l'humain, ils ont compris ça, ils ont vécu, en tant qu'humain, ils ont vécu l'aspect animal dans ses retranchements, et c'est pour ça qu'ils ont, génétiquement, commencé à bidouiller les choses, et qu'il y a commencé à avoir, on va dire, des densifications d'animaux, où vous aviez, par exemple, le centaure, enfin, vous aviez... des parties de cheval avec un parti d'autre chose, etc. Enfin, il y avait des mélanges. Parce qu'ils faisaient des associations entre les choses pour voir si chaque espèce qui avait été créée, ça allait amener quoi en faisant des croisements. D'accord ? Donc, ils faisaient des essais. Parce que l'objectif était de densifier l'esprit dans la matière. Et c'est pour ça, là, il y a d'autres personnes qui disent, oh Laurent, tu nous dis qu'on est hyper méga puissant parce que, voilà. Eh oui, parce que, en fait, nos ancêtres, si on prend dans un temps linéaire, ont tout fait pour arriver à densifier les choses dans un corps. Donc ce corps est extrêmement puissant. Notre corps physique, un des 2D, là, c'est du costaud. Mais il a fallu des milliers, des centaines de milliers d'années pour arriver à densifier, donc avoir une certaine maîtrise de tout ça. Cette maîtrise, on va dire, a été acquise après progressivement par un autre, on va dire, une autre civilisation, parce que vous savez, les civilisations se superposent à certains endroits, se chevauchent, mais hop, il y a un nouveau truc. Comme nous, en ce moment, bah, on va dire qu'il y a les marcheurs de 4D qui commencent à se superposer à la 3D. La 3D n'est pas morte, mais la 4D n'est pas vraiment à son top. Donc, il y a un chevauchement. Mais arrivé à un moment, la 3D, ça sera fini, puis on sera en 4D. Puis un jour, il y aura un chevauchement avec la 5D. Donc il est normal que des choses se chevauchent. Et donc, les Atlantes ont été une civilisation qui est la continuation, on va dire d'une certaine manière, de l'expérience acquise par les Lémuriens, mais sous un angle beaucoup plus géométrique. C'est-à-dire avec plus de mental. Et on va dire pousser la chose un peu plus loin dans la géométrie. Donc, autant les Lémuriens ont essayé de vivre l'aspect animal en conscience, avec la conscience d'un humain, eh bien, autant les Atlantes ont descendu d'un cran en essayant de pouvoir utiliser, parce que, comment dire, les animaux vivent, comment dire, les animaux sont l'extension du végétal, mais au niveau de moteur de l'humain. Les Atlantes, eux, ont poussé la logique plus bas, ils sont allés dans la géométrie du cristallin. Donc toute la civilisation atlante était basée sur l'utilisation du cristal. Alors forcément, il y a eu baston entre les deux, ils n'avaient pas tout à fait la même approche. L'un vivait comme un animal, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que c'était raffiné, c'était poussé à l'extrême, alors qu'en face, ils avaient des... Ils étaient dans la vibration, donc très féminin, et en face, bah, s'est développé le masculin, la géométrie. Mais qu'est-ce qu'ils ont étudié, ça ? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans notre science officielle ? Nous étudions ça. Nous faisons exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc les Atlantes ont développé, on va dire, une connaissance de la puissance contenue dans le cristal. Donc pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, ils comprennent qu'un cristal, c'est vivant. Ah, bon. Déjà là, pour les gens qui ne sont pas habitués, ils vont se dire, ouais, bon là, il délire grave. Mais en vérité, un cristal, quand il a été fabriqué par Terre-Mère, c'est-à-dire qu'il y a eu, on va dire, des fusions, des... c'est-à-dire que la Terre-Mère a brassé les éléments, croyez pas que ça s'est fait au hasard comme ça, non. Parce qu'il y avait les grilles de Terre-Mère, il y avait le champ magnétique de la Terre, il y avait plein de choses. Donc évidemment, cette matière a enregistré la vibration. Donc, ce qui donne des pierres différentes, avec des qualités différentes, parce qu'ils ont été construits dans une vibration différente, mais avec une matière relativement identique. C'est un petit peu comme l'ADN humain. Il n'y en a qu'un, mais on voit toutes les variations. Ben, c'est pareil pour les cailloux. Donc les cailloux ont une conscience. Ça, c'est une chose. Ils ont une conscience, celle de Terre-Mère. Donc ils sont vivants. Mais, comme dirait l'autre, ils ne sont pas dans le sens émissif du terme. C'est-à-dire, ils ont conscience, ils sont. C'est une conscience de Terre-Mère, ils sont. Et donc, bien sûr, ils peuvent, si vous leur demandez quelque chose, répondre à votre attente. Donc, par exemple, quand nous prenons un caillou et que Corinne et moi, on l'encode, puis qu'on dit c'est un 3C2P, on lui donne en fait une information, un code, qu'il va lui permettre, entre guillemets, de pouvoir redonner à qui le demande. Donc, quand vous buvez de l'eau encodée, c'est parce qu'il y a eu, on va dire, un cristal qui a emmagasiné cette information. Car avant, on pouvait encoder directement l'eau. Mais le problème, le code se dilue dans le temps, dans l'eau, et puis bah, ça faiblit, puis après, il n'y en a plus. Le fait qu'il soit enregistré définitivement dans un cristal fait qu'il est inépuisable. Ça n'empêche pas que votre cristal, vous pouvez quand même lui envoyer des feux du cœur. Vous pouvez le mettre au soleil, vous pouvez le mettre dans une eau, on va dire, osmosée afin qu'il se nettoie, etc. En fait, vous pouvez, surtout quand vous avez des 3C2P, faire que vos 3C2P soient au top concernant l'émission. Bon. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, il est apparu, depuis quelque temps, ce qu'on appelle les Lamour 1. Ça veut dire que c'est une entité cristalline qui vient dans le cristal. Mais là, on a affaire à autre chose. On a affaire à un esprit qui vient s'incarner dans un cristal. Donc là, on peut demander effectivement à cette entité de faire des choses. Quand on lui dit, quand on demande à l'amourin, s'il te plaît, dépollue-moi ou rend bénéfique pour le vivant toute l'électricité qu'il y a à la maison, il va vous le faire. Parce que c'est un esprit incarné dans un cristal. Alors c'est sûr que pour le commun des mortels ici 3D, et même de tout scientifique, tu dis, tu écoutes, là, il y a un esprit dans le cristal et on peut lui commander ce qu'on veut. Alors tu regardes, c'est simple, hein, tu as ton compteur électrique ici avec télé machin, ben voilà, on va le mettre, et puis tu vas voir maintenant la qualité de la vibration. Pour le scientifique, lui, sous son microscope et tous ces trucs, il ne peut pas savoir si une onde elle est positive ou négative, parce qu'en fait, il est incapable de comprendre ce qui se passe, parce que l'aspect des instruments de mesure aujourd'hui est une mesure physique, mais pas une mesure vibratoire. Quand je dis vibratoire, de ressenti. Donc ils ne peuvent pas. Par contre, quelqu'un qui est en démarche vers la 4D, donc vers la vibration, va pouvoir se rendre compte que boire de l'eau encodée, eh bien, ça change quelque part le fonctionnement de votre corps. Le fait de parler, ne serait-ce qu'à l'amour 1, vous vous rendez compte qu'il vous répond et qu'il peut faire des choses. Vous dites, ah ouais, bon, pourtant c'est qu'un caillou vu par les scientifiques. Mais pour vous, en tant que marcheur, le caillou est juste le support. Mais dedans, il y a la vie. Et donc, nos amis, on va dire, Atlantes, faisaient quoi? Eh bien, ils avaient ce qu'on appelle des fermes de croissance minérale, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de mettre à des endroits spécifiques de terre-mer où tous les réseaux étaient, on va dire, en cohérence, de telle manière à faire croître, comme on fait pousser des champignons, des cristaux. Ça, c'était l'aspect géométrique, l'aspect cristallin. Et après, ils demandaient à des entités, à des êtres de lumière, ou enfin à des entités d'esprit, de venir dans ce cristal afin de diffuser dans le réseau de terre-mer ce qu'ils avaient envie de diffuser. Toute la technologie Atlante était basée sur une technologie cristalline. C'est aussi simple que ça. Donc, ces maîtres cristal étaient en fait des scientifiques. Mais, sous l'emprise des lois de l'un, c'est-à-dire, il dit d'abord nous sommes un esprit, et ensuite j'étudie la matière afin que l'esprit puisse pénétrer plus profondément la matière et donc spiritualiser la matière. Et donc ces personnes, alors on prend des termes basiques, on va dire c'était des prêtres. C'était des prêtres du sans-nom, c'est-à-dire de ceux, les porte-paroles, de ceux qui vibrent en cohérence avec l'unité. Parce qu'en cohérence avec les lois de l'un. Donc c'était des prêtres. D'accord ? Ingénieur, c'est-à-dire que c'était d'abord une vibration qui ensuite maîtrisait une géométrie, grâce, on va dire, à la science. Donc, ces individus étaient appelés des atlas, du terme Atlante, Ra, qui est la lumière. Donc quand vous étudiez la matière, le fonctionnement des bases, des briques de la création, vous êtes une lumière. Mais ceci ne peut exister que si il y a ça au départ. Car si vous étudiez la matière en étant une géométrie qui veut comprendre, on va dire, une vibration et une géométrie, vous êtes mal. Alors, surtout, je dis la vibration, on va dire une géométrie. Vous êtes mal parce que vous ne le faites pas avec la vibration. Mais ça veut dire, il existe encore une tranche de scientifiques qui regardent, qui étudient la vibration, c'est-à-dire la 2D. Et ils voient combien la création est exceptionnelle. Ils se disent, les plantes, ça ne pousse pas au hasard. Ils disent, les trucs qui se passent au niveau du vivant, c'est pas le hasard. Ça ne peut pas être fait comme ça au pif. Et que ça tombe comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a des trucs, c'est impossible. Et donc, tout scientifique, surtout si en plus il est dans le corps enseignant, vous dira, quand vous étudiez, on va dire, la biologie, il vous dira, attendez, hein, vous avez deux corps. Ils disent de suite. Parce que sinon, ça ne tient pas à la route. Ils vous disent, il y a un aspect vibratoire, il y a un espace géométrique. Alors, vous choisissez le hasard, vous choisissez Dieu. C'est-à-dire une main invisible qui fait que les choses fonctionnent. Parce que si on veut se repérer uniquement à la version matérialiste, c'est impossible. Ça ne tient pas à la route. Quand vous avez une molécule qui rencontre une autre molécule, on dit il y a 10 milliards de chances, une chance sur 10 milliards pour que ça arrive, vous pouvez quand même attendre. Hein, hein. C'est comme au loto. Hein. Vous pouvez jouer toute votre vie tous les week-ends, hein. Enfin toutes les semaines. Hein. C'est pas dit que vous allez gagner. Hein. Puis il y en a un qui jouera deux fois, puis pof, il remporte le truc tout de suite. Donc, l'évolution n'est pas dû au hasard. Il y a une main derrière. Et plus un scientifique étudie le vivant, et plus il se rend compte que c'est impossible que ça fonctionne sans qu'il y ait eu l'intervention d'une conscience. Il ne peut pas dire le contraire. Parce que tout lui prouve qu'il y a une main invisible qui dirige tout ça. Alors après, ils mettent des mots comme ils peuvent. Parce que, comme ils sont payés, entre guillemets, par l'État, ils ne peuvent pas quand même dire des choses contre le dogme. Donc ils ferment un peu leur gueule. Et donc, quand vous arrivez à un certain stade, alors, quand je vous dis, vous avez des profs qui vont jusqu'au bac, c'est, bon, on va dire des fonctionnaires. Ils sont payés, ils ont leur paye, ils racontent ce qu'il y a d'écrit au programme, et puis pas autre chose, surtout pas. Voilà, et puis c'est tout. C'est des robots, point barre. Ok, d'accord. De temps en temps, il y en a quelques-uns, c'est leur vocation, et ils arrivent à faire à transmettre parce qu'ils ont la vibration. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et de loin. Hein, vous le savez, de toute façon, c'est votre expérience personnelle. Vous alliez au cours qui vous plaisait parce que le prof, il avait quelque chose. Par contre, quand c'était que de la géométrie, hein, c'était escape, escape au maximum. Hein, avec des notes, bien sûr, en correspondance. Et... qu'est-ce que je veux dire? Après le bac, ce sont des chercheurs enseignants. C'est-à-dire que l'État leur dit, puisque vous êtes des chercheurs, et qu'on sait que vous n'avez pas trouvé, on va quand même vous payer, mais il va falloir que vous soyez utile. Donc pour que légalement vous ayez une paye, on va vous demander d'enseigner pendant 20 heures par semaine. Vous donnez 20 heures de cours par semaine, et puis le reste du temps, c'est pour faire la recherche. Parce qu'on ne peut pas quand même vous payer à dire vous êtes chercheur et vous ne trouvez rien. Ça, c'est, on a du mal quand même. Et donc, quand vous commencez à être en contact avec ces enseignants-chercheurs, ou ces chercheurs qui essayent d'enseigner, parce que je peux vous dire qu'il y a des chercheurs, l'enseignement, ça fait deux avec eux, hein, parce qu'il y en a, ils sont franchement pas doués. Hein. Ah, il y en a qui se débrouillent. Mais ils sont franchement pas doués. Mais ce n'est pas leur priorité. Parce qu'on va dire que le fait qu'ils enseignent, c'est justement pour faire tourner la baraque. Et que les étudiants soient contents ou pas contents, ça ne rentre pas dans leur curriculum vitae. Puisque vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de noter les profs. Les élèves n'ont pas le droit de noter les profs. Donc il n'y a aucun feedback. Donc que le gars il soit bon à enseigner ou pas, c'est pas grave. Il aura la même paye que l'autre. Parce qu'ils vont être payés en fonction de ce qu'ils trouvent. Et vous savez qu'un chercheur, s'il cherche, c'est parce qu'il ne trouve pas. Autrement, ça serait des trouveurs. Hein, d'accord ? Donc, concrètement parlant, j'ai été en contact pendant quand même assez longtemps avec donc ces enseignants, enfin ces enseignants chercheurs. Parce qu'en vérité, l'IUT où j'étais était en fait un IUT, un institut universitaire de technologie, le terme, où il y a des enseignants-chercheurs. Et en fait, ils regroupent les chercheurs selon certaines disciplines dans le même IUT et mettent, on va dire, un matériel à disposition pour qu'ils essaient quand même de trouver quelque chose. Alors, ce matériel mis à disposition va être aussi, en même temps, utilisé par les élèves. Parce que si vous voulez démontrer certaines caractéristiques, on va dire, physiques, si vous dites, voilà, on va étudier un cristal et on a besoin de faire de la diffraction X, il vous faut quand même une machine qui vous balance du rayon X et puis qui peut vous faire toutes les images qui vous permet de dire, ah, ça, c'est un cubique centré, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et si vous n'avez pas le matos, vous ne pouvez pas. Alors, on sait que l'enseignement, que l'éducation nationale, ils n'ont pas beaucoup de sous. Bah, malgré tout ce qu'ils bouffent, ils n'ont pas beaucoup de sous. Hein. Donc, ils n'ont pas les moyens d'acheter du matériel de recherche. Donc, dès que vous passez dans des études, on va dire, spécialisées, vous avez besoin d'avoir du matos qui est quand même pas trop ancien. Parce que l'objectif, c'est quand même de former des gens qui vont devenir ultérieurement des chercheurs. Alors, vous ne pouvez pas quand même faire avec les moyens du bord. Enfin, veut dire basique, rendez pas crête. Donc, il faut quand même les mettre avec du matos qui, enfin, si possible, dernier cri, mais bon, généralement, les pépettes font que c'est pas toujours forcément le dernier cri. Hein. On est d'accord. Mais je peux vous dire, hein, moi, quand j'étais étudiant, on avait du matériel. Même si vous aviez bossé toute votre vie, vous auriez été incapable de juste de payer un matos, quoi, parce que ça coûtait des fortunes. Mais ça permettait de pouvoir aller explorer, on va dire, l'infiniment petit, etc. Donc moi, j'étais dans une école de vinet, de cristallographie. Comme par hasard. Mais qu'est-ce que j'étais foutu là, moi, hein ? C'est-à-dire que l'équipe qui était là, à cet endroit-là, était spécialisée dans l'étude de la structure du cristal. Et donc, ils étudiaient aussi bien l'aspect magnétique que géométrique. Donc, ils essayaient de faire de mélanges entre différents cristaux, des trucs, des machins, et pour voir quelles en étaient les caractéristiques. Comment on découvre les nouveaux matériaux? Comment qu'on fait pour avoir aujourd'hui des trucs complètement ratatinés, enfin je veux dire minuscules, alors qu'avant il fallait des montagnes? C'est parce qu'on a trouvé des matériaux, c'est-à-dire qu'on a pu associer certaines structures avec d'autres. Mais ça s'est fait par l'expérimentation longue, douloureuse et coûteuse. On est d'accord. Maintenant, si je revenais voir mes profs, là, mes chercheurs enseignants, avec ce que je raconte en ce moment, en disant, t'as vu le cristal, attends, je vais l'encoder, maintenant, va étudier les caractéristiques. Ils ne comprendraient pas, ils disaient, ouais, bon, là, Laurent, là... Alors déjà, ils me prenaient pour un ovni à l'époque, hein, parce que je parlais beaucoup de soucoupes volantes à l'époque. Ils vont dire, il va loin le petit, là. D'accord. Donc, comprenez que l'étude de quelque chose qui pour nous est apparemment mort ne peut être fait que par des morts. Si vous voulez étudier ce qui se passe là, dans un cristal, il va falloir être là avec une logique. Et si vous n'avez pas ça, ben vous ne l'aurez pas ici. Et donc vous verrez que des choses mortes. Voilà pourquoi la science officielle, un caillou c'est mort, un morceau de ferraille c'est mort. Donc, si je prends du minéral XYZ, je le fonds, tel que la ferraille, j'en fabrique de l'acier, que je l'usine, etc., et que je fabrique une bagnole, on dit, bah, de toute façon, c'est qu'un tas de pièces détachées, il n'y a aucune conscience. En vérité, votre bagnole, elle a une conscience. Et vous pouvez causer avec votre voiture. Comment ? C'est l'assemblage de boulons, de plastique, de trucs, de machin. Oui, mais vous pouvez causer avec. Ah. Donc, quand on commence à être dans la vibration, on commence à ressentir qu'en fait, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est matière, possède en vérité une conscience. Alors bien sûr, puisque nous sommes des ignorants, nous faisons des choses sans conscience. Donc on crée des choses sans conscience. Donc par exemple, si je prends l'aspect cristal. Quand vous prenez un cristal, par exemple de roche, bon, c'est quand même rare qu'il vous balance les arcs-en-ciel, les trucs, les machins, parce qu'il peut être plus ou moins transparent, plus ou moins laiteux, plus ou moins avec des incrustations, plus ou moins... Enfin, il peut y avoir autant de variétés. Ok, d'accord. Mais s'il y en a, j'ai fabriqué du verre. Le verre, c'est bien du cristallin. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris certaines roches, du silice, du sable, vous allez le foutre avec deux, trois trucs à côté, et puis vous faites le fondre le tout. Mais vous allez le fondre dans une fonderie. Est-ce que vous allez le faire en conscience? Non, c'est mécanique, hein. La centrale, enfin, on va dire une centrale électrique à côté qui fournit, parce que ça pompe quand même un paquet, parce que, vous savez, on ne fait pas fondre le verre juste avec du bois, hein. D'accord ? Donc, voilà, et donc il faut être à côté d'une source d'énergie importante. Donc, on sait que toutes ces sources d'énergie générées par l'homme sont généralement très parasitées. D'abord, hein, ils possèdent des informations complètement, enfin bref. Et donc, vous allez chauffer la ferraille qui va, bien sûr, à ce moment-là, perdre sa conscience, puisque, d'une certaine manière, je vous l'ai dit, quand vous montez les choses en chaleur, c'est-à-dire que les atomes grossissent, le code disparaît, puisque vous faites passer les électrons, on va dire, de certaines couches à d'autres couches. Donc ils perdent la mémoire. C'est ce qui se passe avec nous. La montée en 4D ou 5D, vous avez des creux là-dedans. Hein. À la banque de données, vous n'y accédez plus comme avant. Hein. Et ben, c'est la même chose qui se passe. Et donc forcément, ils perdent la mémoire. Donc c'est pour ça, quand vous prenez une eau encodée et vous la faites bouillir, ben, c'est une eau normale. Hein. Elle n'est plus encodée. D'ailleurs, comme toute nourriture que vous faites chauffer, dépasser une certaine température, c'est mort. C'est-à-dire, toute la conscience qu'il y avait dedans n'existe plus. Donc le résultat, bah, vous pensiez, entre guillemets, manger quelque chose, c'est-à-dire prendre de la vibration, des codes de la vie, bah, vous n'avez plus de code. Donc vous vous remplissez le ventre, comme je dirais, avec de la cellulose, avec du bois, avec quelque chose. Enfin bon, la cellulose, même à l'état naturel, elle a un code. Mais comprenez que vous mangez un truc mort, qui ne possède plus aucune information. Donc vous pouvez bouffer autant que vous voulez, ça ne va pas vous nourrir. Et c'est pour ça que nous vieillissons. Parce que tout simplement, nous sommes incapables de pouvoir compenser la perte d'énergie que nous avons en vivant. Donc on mange, mais en fait, ça ne remplit pas la batterie. Bref. Donc, on voit bien que ce qui est créé par l'homme sans conscience donne quelque chose sans conscience. Par contre, évidemment, si vous faites quelque chose en conscience et que vous appréciez ce que vous faites, vous allez communiquer à cette matière les codes, une vibration qu'on va appeler amour, si on veut être un peu bisounours, qui va permettre à cette création de dégager des ondes d'amour. Donc, comme je vous disais, on est des aimants. Donc si l'aimant, il aimante rien, il n'y aura pas d'aimantation. Donc résultat, ce qui sera fabriqué, ce ne sera pas un aimant. Si par contre, vous avez une aimantation, vous vous dégagez, parce que vous êtes dans la vibration donc électromagnétique, vous allez magnétiser ce que vous faites. Et effectivement, ce que vous aurez fait va ensuite prendre cette aimantation, et donc va le restituer. Donc, si vous peignez un tableau et vous y mettez toutes vos tripes, mais en termes vibratoires, la peinture que vous mettez va s'incruster de cette vibration. Et vous dites, mais pourquoi ce tableau, il me... Oh ! Alors que si je le fais reproduire par, on va dire, par un robot qui fait le truc comme ça, vous savez, un copiste, il n'y aura pas là cette vibration. Il y a quelque chose qui manquera. Nous sommes dans un monde électromagnétique. Donc, obligatoirement, ce monde électromagnétique va mettre les codes partout. Et voilà pourquoi, du temps, on va dire, des anciens temps, tous les ouvriers étaient appelés, enfin, tous les ouvriers, ceux qui faisaient des travaux très spécialisés, étaient appelés des artisans, parce que c'était des artistes. Un artiste, c'est, on va dire, l'opposé, le contraire et le complémentaire du scientifique. Le scientifique, lui, il essaye de découvrir le sans-nom à travers l'étude de la matière. L'artiste, il prend la matière pour faire émaner l'aspect, on va dire, divin de cette matière. Quand un artiste, on va prendre par exemple un musicien, et qu'est-ce que fait un musicien ? Il fait quelque chose de sonore, hein, parce que sinon, c'est pas un musicien. Hein, d'accord ? Il est dans la vibration. Mais cette vibration, il a fait comment ? Grâce à du matériel. Parce que s'il n'a pas de matière, s'il n'a pas de géométrie, s'il n'a pas d'instrument, il ne pourra pas dégager de vibration. Donc, ce que l'on aime chez un artiste, c'est sa capacité à pouvoir, entre guillemets, restituer ce qu'il ressent de la vibration dans l'œuvre qu'il fait. Voilà un véritable artiste. Et voilà pourquoi aussi, généralement, un artiste qui au départ est inconnu, qui fait ses œuvres juste pour lui, juste pour mettre, aura des œuvres puissantes. Et à fur et à mesure qu'il sera connu, il y a le pognon qui va s'y mettre. Et on va lui dire, bah écoute, ça serait bien que tu produises un peu quand même. Parce qu'il y a des tas de commandes et on n'arrive pas à les fournir. Et donc l'artiste va commencer à faire ses œuvres et il va perdre de sa... Parce que il ne sera plus dans cet élan. Donc, tout individu qui est équilibré en son masculin et son féminin est un artiste dans tout ce qu'il fait. Il est à la fois l'ingénieur, le scientifique, et à la fois celui qui va exprimer l'aspect vibratoire. Et donc voilà, en France, on a un truc, là, c'est le compagnonnage. C'est pour ça que quand il y en a un qui avait trouvé un truc et puis qui avait réussi à... Voilà, et bien il le transmettait aux autres. Par corps de métier, chacun son corps de métier. Ça s'appelait le savoir-faire. Mais ce savoir-faire demandait au départ un savoir-être. Si vous avez le savoir-être, le savoir-faire va s'acquérir, mais avec un plaisir, jusqu'aux oreilles, là. Ça ne sera pas quelque chose, ouais, il faut que j'aille, il faut que j'apprenne, il faut que j'ai des diplômes, parce que si, parce que ça. Vous allez le faire. Et vous n'en avez rien à battre de dire diplôme ou pas, je m'en fous, parce qu'on me jugera sur ce que je fais. Et si vous faites une œuvre, quelle qu'elle soit, vous faites la chose en conscience, avec tout votre amour, avec toutes vos tripes, avec votre vibration, et vous communiquez avec la matière, ben je peux vous dire que ce que vous allez faire, il y en a qui vont se battre pour l'avoir et qui mettront du pognon fou. Mais on s'en fout du pognon. Voilà pourquoi quand quelqu'un a mis toutes ses tripes dans une œuvre, généralement il a du mal à la vendre. Parce que c'est se séparer de soi-même. D'accord ? Donc, en fait, un atlara est en fait un prêtre puisqu'il est dans la religion des lois de l'un. La seule et unique religion. Et forcément, il sera en accord avec la matière. Et donc, par cette combinaison d'êtreté, et enfin on va dire d'humilité d'une certaine manière, de pousser le bouchon plus loin, eh bien, à ce moment-là, il arrivera à mettre la vibration dans la matière. Donc, les Atlara étaient cette secte, on va dire, ce regroupement d'individus qui avaient dévoué leur vie au collectif. C'est-à-dire, ils ne vivaient pas dans la luxure. Ils ne cherchaient pas à avoir des appartements, des trucs, des machins, puis des, on va dire, des tas de femmes ou des tas de femmes. Non ! Ils étaient dans l'humilité, ils étaient dans la vibration. Je suis au service d'eux. Par contre, si je veux véritablement aider mon prochain, là, qui est là, là, qui, bon, il n'a pas l'électricité, il n'a rien, il ne va pas avoir de toit, rien, comment je peux faire pour maîtriser cette matière et lui insuffler la vie? Et vous verrez que, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien à voir entre la 3D et la 5D. Nous ne sommes pas en 5D. Parce qu'en 5D, il n'y aura pas de maçon. Il n'y aura pas d'électricien. Il n'y aura pas tout ça. Parce que nous serons en accord avec le minéral. On demandera, on dira, voilà, je désire avoir une maison ici, telle forme. Elle prendra forcément les lois physiques des lois de l'un. Et vous ferez un partenariat avec ce minéral. Parce que ce minéral sera habité par une entité vivante dans une autre dimension, mais pouvant faire ce que vous désirez avoir. Et donc le résultat, votre maison sera accordée à votre ADN. Personne ne pourra rentrer dans votre maison parce qu'ils n'auront pas le code d'accès. Et ça ne sera pas fait avec des circuits électroniques et des trucs et des mots de code. Et ou avec une puce intégrée. Rien de tout ça. C'est votre vibration. Et donc, eh bien... vous vous pointerez en face le truc et il y aura une porte qui apparaîtra. Vous passerez la porte et ça se refermera. Mais en fait, il n'y a pas une porte. D'accord ? Donc, Ce que je veux vous dire, c'est que le nouveau monde vers lequel nous allons est un monde de connexion et d'amour avec toute forme de vie, y compris la matière. La matière est simplement un réceptacle géométrique pour accueillir une vibration. Et donc les Atlaras, les Atlantes, avaient cette capacité de pouvoir inviter des esprits à venir s'incarner dans le cristal. Et c'était des esprits, on va dire, suffisamment puissants, puisque je vous rappelle qu'en face de la 1D, c'est la 24D. Donc la vibration la plus haute et la plus puissante. Donc aujourd'hui, quand certains d'entre nous achètent ce qu'on appelle des crânes de cristal, ce crâne a la forme forcément d'une tête humaine, enfin d'un humanoïde. C'est parce qu'en fait, c'est un effet résonance entre votre crâne et le sien. Et donc l'entité que vous invitez, c'est en fait vous-même. Une autre partie de vous-même que vous invitez dans la matière avec vous. C'est-à-dire, vous vous reconnectez à ce que vous êtes dans les plus hautes dimensions. Ah ouais, mais je vais acheter un crâne de cristal parce qu'il était beau, hein, il était transparent. Ouais, non, mais c'est pas ça. On choisit un crâne de cristal en fonction de comment on le sent, comment on le ressent. Et en fait, ce que vous ressentez, c'est pas la taille, hein, la taille ou la coupe du crâne ou son cristal, c'est la vibration qui en est émise. Et cette vibration est émise en fonction de votre demande de créateur incarné. Donc quand vous vous sentez prêt à avoir un crâne de cristal, ça veut dire que vous êtes prêt à rencontrer une partie de vous-même. Simplement, cette partie de vous-même est tellement vibratoire que si vous êtes encore un peu trop dans la 3D, ça ne va pas véritablement communiquer. Il vous faudra forcément vous mettre en communication sur le mode vibratoire. Or, ce mode vibratoire ne peut être l'expression d'une volonté. C'est plutôt l'expression d'un lâcher-prise. Je lâche prise. Et plus je lâcherai prise par rapport à la communication que je pourrais avoir avec ce crâne de cristal, et plus la communication sera facile et s'établira. Mais si vous désirez, parce que dire, ah oui, mais comme ça, quand je serai en communication avec lui, je pourrai lui poser des questions, comment ceci, comment cela, la matière est ceci et cela, et puis comment je vais vivre ma vie dans un mois, vous oubliez. Parce que l'entité cristalline qui est à l'intérieur vit dans le non-temps. Il ne connaît pas notre espace-temps 3D, 4D, n'a aucune idée de ce que veut dire nuit, jour. Prenez un caillou qui a été fondu par terre-mer. D'après vous, quelle notion du temps il a? Il peut rester 1000 ans au même endroit ou 1 million d'années au même endroit. Hein. Il est. Et ça suffit. Enfin bref. Donc concernant tout l'aspect cristallin, j'en ai déjà donné des détails sur Petit Poussé, sur le site de l'aide de la nature et tout ça, mais plus nous allons avancer en tant qu'Atlara, et plus en fait on va aller dans comment ça se passe, comment ça joue, comment ça marche. Mais je ne peux pas donner, alors je donne un maximum d'infos, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand on passe d'un stade à un autre stade, vous avez la courbe de l'amorti. Donc si vous y allez trop vite, trop fort, il y aura un refus total de la personne en face. Donc on ne peut pas forcer des gens à prendre pour vérité quelque chose qu'ils ne peuvent pas concevoir. Donc, on y va mollo, on y va gentiment. Mais parmi vous, il y en a un nombre qui, bien sûr, ont acheté des crânes et qui sont déjà super bien avancés dans la communication. Ils font des tas de choses. Simplement, ils n'ont pas forcément un blog et ils ne vont pas le raconter à tout le monde parce qu'il n'y a personne qui vont véritablement les prendre pour des gens que ça se passe véritablement. Donc, on s'en fout. Comprenez? Donc, par rapport au cours que je vous donne, je vous l'ai mis dans l'article. Eh bien, les gens qui me lisent, les gens qui me suivent, les gens qui résonnent à mes écrits sont en fait des Atlaras. C'est-à-dire que dans une vie parallèle, ils ont cette vie de dévouement à terre-mer, de dévouement à la matière et de dévouement à l'évolution de l'humanité. C'est rivé en eux. Parce que c'est leur mission de vie. Et donc le fait de se reconnecter à cet univers parallèle peut se faire parce qu'en ce monde de 3D, 4D, il y a un plombier qui en cause. Mais lui, il n'est que l'ouvreur de chemin. Mais après, petit à petit, vous allez rentrer dans votre propre maîtrise de ces choses-là. Je ne veux pas dire vous oublierez le plombier, vous direz merci, il m'a fait avancer. Mais vous allez continuer vos trucs tout seul, comme un grand. Vous allez voir. Donc c'est pour ça que, par rapport au prochain cours, comme je dis, Radio Libre Céleste, il faut comprendre que si vous le regardez à la version purement 3D, vous allez dire, ouais, bon, il n'a plus rien à dire, il reprend les cours classiques de la physique. Sauf que je vais vous l'aborder sous le terme, sous l'angle vibratoire des choses. Et en l'abordant sous l'angle vibratoire des choses, vous allez voir, et vous allez surtout comprendre pourquoi cette humanité est complètement bancale et pourquoi c'est une civilisation qui va au cimetière. D'accord ? Donc, pour revenir, parce que en fait j'ai dérivé un peu, mais c'est pas grave. Le truc, quand je vous ai parlé d'omniscience, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les lois du sans-nom et à toute l'information. Donc, j'aime bien le mot science, hein, parce qu'on dit science, quand quelqu'un est science, ça veut dire qu'il a de la science. Hein. Donc là, hein, quelqu'un de science, c'est quelqu'un, par définition, qui a de la science, qui a de la substance, qui a des choses. Mais après, comme dirait l'autre, quand vous tapez dans la version 3D, vous êtes science. Hein, mais là, ça s'écrit, enfin, je crois que c'est... Enfin, vous êtes en train de scier l'autre, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois, moi j'ai, enfin je l'avoue, j'ai un problème de compréhension avec les humains et les préhumains. Parce que derrière le même mot, je peux avoir des versions complètement opposées. Quand quelqu'un dit, ah j'ai dégusté. Effectivement, là j'ai eu un gâteau, je l'ai dégusté. Alors les papilles, tout, enfin la totale, j'ai dégusté. Maintenant vous dites à quelqu'un, le gâteau là j'ai dégusté, l'autre il va comprendre quoi ? Dans le sens populaire du terme, ils disent, putain, c'était tellement un fake que franchement, j'ai failli le recracher. Alors qu'en fait, vous voulez vraiment dire que vous avez... ça a été jouissif. Alors, vous prenez quelle version dans l'affaire ? Donc, plus ça va, plus j'avance, et plus j'ai une difficulté de compréhension par rapport à l'humain et le préhumain, parce que je ne sais plus quelle définition prendre. Parce que dans le mot qu'il a utilisé... je peux avoir des versions très différentes, voire carrément opposées, quoi. Alors, il y en a d'autres, hein, comme ça. Hein. Je me suis amusé à noter ça. Hein. Attendez, je regarde. Voilà. Vous dites, c'est quelqu'un, c'est un zéro. Alors, quand vous êtes dans la version 3D, c'est un zéro, ça veut dire il est nul. D'accord ? Mais si vous prenez dans la version 4D, Laurent Duroux, c'est un zéro, ça veut dire c'est une femme, c'est du féminin, c'est de la vibration. Comprenez la difficulté qu'il y a à interprétation. Donc vous pouvez comprendre que quand nos amis de l'invisible, ils essayent de taper dans notre bibliothèque pour transmettre un message, ils se disent, putain, quel mot on va prendre ? On va leur parler d'amour, mais qu'est-ce qu'ils vont comprendre du mot amour ? Comment ils vont le choper ? Comment ils vont l'interpréter ? Ah, il y en a d'autres. Ouais, enfin bref. Alors par exemple, j'avais écrit comme ça. Parlons des mineurs et des majeurs. Vous dites là, maintenant, bon, il parle de quoi, là ? Alors, si je me mets sur un plan de l'âge civil, on dit il y a les mineurs, moins de 18 ans, et puis les majeurs, plus de 18 ans. D'accord ? Mais les mineurs, ça peut aussi, ceux qui minent, ceux qui sont au fond de la mine. Puis comme vous êtes au dernier cri, vous dites aussi, ah bah c'est peut-être quelqu'un qui fait dans le bitcoin. Ah oui, parce que quand dites les mineurs et les majeurs, vous pouvez dire les mineurs au niveau du bitcoin, c'est ceux qui minent, et puis les majeurs, c'est ceux qui ramassent tous les pognons et tous les serveurs. Alors vous dites, bon, alors maintenant, si on me dit ça, j'interprète comment ? À quel niveau ? Dans quelle dimension ? Par rapport à quoi ? Donc, je vous ai habitué un tout petit peu à ce langage des mots, hein, de dire, il y a le quantique et le quantique. Vous dites pareil, c'est le quantique, c'est quantique, ouais, mais le quantique de 3D ou ton quantique de 4D? Et je vois que plus j'avance sur le chemin, et plus il m'est difficile de savoir, quand quelqu'un m'écrit un email ou me parle, qu'est-ce qu'il est en train de me dire en vérité. C'est pas évident. Surtout si c'est écrit. Parce que là, dans ce mode vibratoire, il y a peut-être, il va falloir que je détecte l'intonation. Est-ce qu'il est sarcastique ou est-ce qu'il est vraiment vrai? Est-ce que c'est de l'humour ou est-ce que c'est vraiment vrai? Donc j'ai dégusté. Tu dis, ah, il y a peut-être des chances que ça soit dans le vrai. Et s'il dit, j'ai dégusté, ça doit être négatif ce truc. Donc, je dérive encore, c'est une aparté, mais c'est simplement pour vous dire que plus on va avancer dans la multidimensionnalité, parce qu'avant on était monodimensionnel, et plus on va avancer dans la multidimensionnalité, et plus vous allez être paumé, et vous allez plus savoir de quoi causent les gens véritablement. Et donc c'est pour ça que plus nous allons avancer dans la version 4D, et moins on utilisera les mots. MOT ou MAUX, hein. C'est-à-dire qu'on parlera de plus en plus par télépathie, et parce qu'on ressentira d'abord de plus en plus. Ouh, d'accord. En fonction de mon ressenti, je peux maintenant commencer à mettre une traduction en face de ce qu'il vient me dire. Ok ? Mais par la télépathie, il n'y aura plus possibilité de tromperie. Parce que ce n'est plus des mots. D'accord ? Bon, on n'en est pas encore à ce stade. Mais de toute façon, c'est ce qui nous pend au nez. Quand on sera en 5D, les cordes vocales, ils serviront pas à grand-chose. Mais serviront à quelque chose. À ce qui était à l'origine, le verbe créateur. Par l'émission de la vibration, vous allez insuffler des codes dans tout ce qui vous entoure, y compris la matière. Le problème, c'est que pour l'instant, les codes qu'on insuffle, c'est du baratinage et des trucs sans queue ni tête dans la majorité des cas. Donc, on fabrique vraiment le monde, vibratoirement, avec toutes les saloperies qu'on raconte. Et c'est pour ça, comme dirait l'autre, avoir la parole juste, hein, si t'as rien d'autre à dire, tu fermes. Tu fermes. Parce que sinon, tu joues contre toi. Donc, ici, j'étais revenu un petit peu dans les omnis, la science. Puis après, on avait la potence et la puissance. Ben oui, mais ça dépend comment on regarde. Parce que tout dépend comment on regarde. Donc, ici, moi, dans ce que j'avais mis la potence ici, l'omnipotence ici. C'est-à-dire que c'est la potentialité de réalisation dans la matière. Mais ici, comme je vous avais dit, ça, c'est un terme potentiel. Donc ici, en dessous, si vous avez l'omnipotence, vous avez la capacité de décider de tout ce que vous voulez. C'est aussi une omnipotence. Après, vous dites, pareil, moi, je vous avais mis l'omnipuissance ici, puisque vous avez la puissance de la décision. Ben oui, mais sur le plan matériel, ça s'appelle des ampères, hein, et du voltage. Donc, c'est pour ça que ces mots, omnipotence, omnipuissance, omniscience, sont en fait des attrape-nigauds. Et donc, c'est pour ça, dans l'article, je vous avais dit, ici, vous avez la décision. Ici, vous avez la réalisation. D'accord ? Alors que là, c'est un potentiel. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut. Mais après, à vous de voir. Enfin, on va dire, c'est de l'informationnel, d'une certaine manière. Donc, en fonction de l'information, vous prendrez vos décisions qui fera des réalisations matérielles. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez pourquoi je disais tout ce baratin biblique ? C'est pour vous foutre dedans. Donc, à fur et à mesure qu'on va avancer sur le chemin, on va être obligé de mettre les points sur les i, comme on dit. D'appeler un chat un chat. Ouais, mais par convenance sociale, et ceci, et ceci, et cela. Non, on vire. C'est. Maintenant, si tu as des interprétations émotionnelles en fonction de ça, parce que tu as des blocages et des trucs, c'est ton problème. Mais si on ne fait pas un dico qui tient bien la route dès le départ, on ne va pas pouvoir avancer. Ok ? Bien. Donc, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que là... Ah, le temps a passé, puis je vais vous donner rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Alors, je ne vais pas parler dans la prochaine vidéo du, pour l'instant du RLC, parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire avant, mais vous inquiétez pas, de toute façon ça viendra. Hein. Mais comprenez le fait que plus on va avancer, plus il va falloir avoir un vocabulaire précis. Et plus il va falloir qu'on aille voir dans des domaines qui n'ont pas été, on va dire, falsifiés. C'est-à-dire des domaines qui tiennent encore la route en termes d'unification. Or, la seule chose, malgré toutes les conneries qu'on peut faire, les lois physiques, nous n'avons pas pu les changer. On a pu pervertir, on va dire, l'équilibre moléculaire. On appelle ça la pollution. Vous dites, tiens, j'ai besoin de l'eau de Javel, donc il me faut du chlore. Donc on va extraire le chlore de d'autres molécules. Donc forcément, vous prenez une molécule, parce que le chlore est toujours collé à quelque chose, hein, c'est clair. Et puis vous allez évacuer toutes les autres en disant, je prends le chlore, les autres, je les balance. Oui, mais les autres là, ben, ils sont devenus déséquilibrés. Donc c'est une pollution. En plus, votre chlore, ben, lui tout seul, c'est une pollution. Et donc après, vous allez le recombiner avec d'autres choses qui vont être une pollution. Parce que justement, le chlore, bah, il était déjà mal à l'aise tout seul. Parce que ça n'a pas été associé naturellement et en conscience. Donc la pollution n'est tout simplement qu'un déséquilibre organisé par des inconscients. Alors là, bah, hein, on revient. Les inconscients... Et les inconscients. Maintenant, vous allez me dire, à vous de maintenant vous démerder en fonction de ce que je dis, comment vous allez interpréter les choses. C'est, la vie va devenir de plus en plus délicate avec les verbes. Avec le verbe, hein, c'est évident. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Hein. En fait, je m'arrête ici, dans cette vidéo pour aujourd'hui, mais je continue. Hein. Dans la foulée, tout de suite, sur une prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt. Merci.